on avait terminé, l'année dernière, on avait terminé avec les impératifs de Paul aux Éphésiens. Conservez l'unité de l'esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit, soyez remplis de l'esprit. Et il y a encore bien des aspects que nous devons étudier ensemble. Deux grands axes, on va continuer à étudier les manifestations surnaturelles de l'esprit, ce que l'esprit fait à l'extérieur, ces manifestations de puissance, ces manifestations surnaturelles, ça on le fera un petit peu plus tard, et dans cette grande branche, on mettra aussi tous les dons spirituels, on réétudiera, on réexpliquera, Bible en main, ce que sont vraiment les dons spirituels. Mais là, je vais m'attaquer à une autre branche pour ce matin, qui va être l'action de l'esprit en nous. C'est un aspect particulier du ministère du Saint-Esprit qui s'appelle la transformation, la métamorphose. Quand la chenille va devenir un papillon, et c'est une facette de sa personne, c'est une facette de son œuvre, de nous métamorphoser, de nous transformer. Je vous l'ai dit dès la série d'introduction, Le Saint-Esprit est une personne extrêmement riche. C'est une personne variée, diversifiée, tellement précieuse. Je peux pas tout reprendre, évidemment. Si vous voulez en savoir plus, le site internet est alimenté semaine après semaine. Vous retrouverez tout en ligne. Le Saint-Esprit est une personne complète. Et il faut bien comprendre les différents aspects, les différentes orientations de l'action de l'Esprit, les différents aspects du ministère du Saint-Esprit en nous, avec nous, sur nous, pour nous. Et comme c'est une personne complète et que c'est une personne, je ne peux pas prendre du Saint-Esprit que ce qui m'arrange. Je ne peux pas le disséquer. Je ne peux pas prendre une partie de l'esprit et puis laisser l'autre partie parce qu'elle m'arrange moins ou elle me fait moins plaisir ou parce qu'elle ne me conviendrait pas. Je ne peux pas prendre de lui que ce qui m'arrange. Et force est de constater, pardon, que nous serions peut-être souvent plus intéressés par les manifestations extérieures du Saint-Esprit, par les manifestations de puissance du Saint-Esprit, que par les miracles qu'il voudrait accomplir aussi à l'intérieur. Beaucoup de chrétiens vivent malheureusement le Saint-Esprit d'une façon extérieure. Ils pensent guérison, baptême dans le Saint-Esprit, parler en langue, dons spirituels, délivrance, chasser les démons, et tout ça c'est très bien, faut pas le négliger, mais ce n'est pas que ça. Le Saint-Esprit est une personne diversifiée, extrêmement variée, riche, une personne complète. Et je dois, pour connaître cette personne et vivre avec lui, j'ai besoin de connaître les différentes facettes de sa personne. Je vis avec mon épouse Anne Bergamini, devenue Anne Brion. Je vis avec elle, je vis avec toute sa personne. Je vis pas seulement avec un aspect de sa personne. Je vis avec elle en permanence, avec tous les traits de son caractère, avec tous ses attributs, avec tout ce qui fait qu'elle est elle. Et je vis pas seulement avec une cuisinière. Non, je vis avec ma femme et je vis avec elle tous les jours, tous les aspects de sa personne. Et avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il vit en nous. Il est Dieu, le Saint-Esprit, il est installé en nous. J'ai une communion avec lui, elle est ininterrompue. C'est 24-24, c'est 7 jours sur 7. C'est constant, c'est permanent, c'est ininterrompu. Et je vis avec cette personne et tous les aspects de sa personne. Et je dois comprendre et considérer tous les aspects de sa volonté pour moi. Et l'un des aspects de sa volonté et de sa capacité pour moi, c'est la transformation. Pas seulement la transformation de l'autre. Seigneur, change mon mari. C'est vrai qu'il en a besoin. Mais Seigneur, change-moi. Si on aime ce Dieu qui change les choses, qui change les temps, qui change les circonstances, qui change les autres, qui change l'extérieur, qui a ce potentiel, cette capacité de changer les temps, les circonstances, tout ce que nous voyons est d'agir à l'extérieur, nous ne devons pas oublier cette facette aussi, tout aussi importante et miraculeuse de l'action de l'Esprit qui consiste à nous transformer, nous, à changer notre cœur. Et j'aimerais que on commence à faire quelques lectures ensemble dans la deuxième épître aux Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, on va prendre au chapitre 3, juste le verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Amen. Je crois qu'on néglige trop souvent ce miracle intérieur tout aussi important qui est l'œuvre de l'Esprit en nous pour nous changer, pour nous transformer, pour nous faire grandir. Qu'est-ce que c'est la croissance spirituelle? C'est quoi grandir spirituellement? C'est pas parce que demain vous allez lire un chapitre de plus par jour dans votre Bible que vous allez grandir. La croissance n'est pas quantitative. La croissance est qualitative. Ce n'est pas parce que demain j'aurai une ou deux ou trois réunions de plus par semaine que forcément je vais plus grandir dans la foi ou dans ma ressemblance au caractère de Jésus. La croissance, ce n'est pas quantitatif. La croissance, elle est qualitative. La croissance, c'est à quel degré? À quel degré est-ce que cette année, tu vas aimer Dieu plus que l'année dernière? La croissance, c'est de savoir à quel point tes entrailles vont être cette année plus serrées et plus émues pour tes frères et sœurs. La croissance de l'église de Manosque, c'est de savoir dans quelle mesure elle sera plus unie en 2019 qu'en 2018. La croissance, c'est de savoir comment est-ce que tu vas aimer ton épouse cette année. Est-ce que tu vas l'aimer plus ou est-ce qu'elle va te saouler plus? Tu ne sauras jamais si tu aimes ton épouse si elle ne te saoule pas. Ça marche aussi dans l'autre sens avec les hommes. Oui, parfois, il te saoule. Oui, parfois, elle te saoule. Mais c'est comme ça que tu vas savoir quel est ton degré d'amour. Parce que l'amour, il n'est pas fait pour les gens parfaits. L'amour, il est fait pour être exercé pour des gens imparfaits. Et c'est face à des gens imparfaits, à des enfants imparfaits, à une église imparfaite, à des frères et sœurs imparfaits, que je vais connaître mon degré de croissance. À quel point je les aime plus? À quel point est-ce que je vais être plus ému de compassion? À quel point est-ce que je vais être plus patient? À quel point est-ce que je vais être plus imprégné de l'esprit de la grâce? À quel point est-ce que je vais faire plus miséricorde? À qui il faut faire miséricorde? À quel point est-ce que je vais avoir plus de fruits dans ma vie? Le fruit, c'est le signe de la maturité spirituelle. Toutes ces images me parlent de la maturité spirituelle, de la stature de Christ, de la sanctification, des progrès, de la qualité de vie, de la transformation. On peut mettre tous les mots et toutes les images qu'on veut. En vérité, ça nous parle de cette même chose qui est fondamentale dans le cœur de Dieu, c'est de nous amener toujours plus à sa ressemblance. Et l'un des aspects du ministère de l'Esprit dans nos vies, c'est d'écrire à l'intérieur de nous son caractère. Écrire dans nos cœurs ses attributs. Si en 2019, face à des situations ingérables, tu es plus sage, tu as grandi. Grandir dans son caractère, grandir dans ses attributs, grandir dans son attitude de cœur, ça aussi, ce sont de purs miracles que le Saint-Esprit produit cette fois-ci, non pas à l'extérieur de nous, mais qu'il produit en nous. Ça ne concerne même pas les sphères de ma vie, ça me concerne juste et purement moi et simplement moi à l'intérieur. Il veut écrire ses principes de vie dans mon cœur. Il reproduit en nous son caractère et son image. La semaine prochaine, on verra le verset 18. Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons le Seigneur, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit. Et ça, ce sont des mots, des expressions différentes, mais qui désignent la même réalité, le même impératif de Dieu, le même plan, la même nécessité que nous soyons de plus en plus à l'image de Jésus. Vous êtes une lettre de Christ écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pas seulement avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Quand bien même c'est extrêmement important, c'est pas seulement de parler abondamment en langue, quand bien même c'est, on l'a vu, c'est fait, c'est extrêmement important. C'est toutes ces choses, oui, sont extrêmement importantes, mais c'est être rempli de lui. rempli de son caractère, rempli de ses attributs, rempli de son fruit. Et je ne peux pas, moi c'est mon choix, je ne veux pas vivre le Saint-Esprit d'une façon extérieure. Je veux vivre le Saint-Esprit sous toutes les facettes de sa personnalité et sur tous les aspects de son œuvre, y compris à l'intérieur. C'est marrant comme nous sommes extrêmement friands de changement quand ça concerne les autres. Quand ça concerne les circonstances. C'est marrant avec quelle facilité on sait ce qu'il faut dans le cœur d'un tel et d'un tel et d'un tel. Pourquoi le Seigneur ne l'a pas encore fait? C'est tellement évident qu'il faut que tu fasses ça en lui, Seigneur. Et quand il s'agit de juger les réalités de notre propre cœur, nous sommes aveugles. Bizarrement, ou alors on a plein de circonstances atténuantes. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés à la vie de Dieu. La vie de Dieu, cette source extraordinaire de vie, a été plantée dans notre vie. Et si nous sommes nés, nous le sommes, amen, nous sommes nés à la vie de Dieu, cette vie ne doit pas être entravée, elle ne doit pas être stoppée, elle ne doit pas être négligée, mais cette vie est appelée à croître. Cette vie est appelée à grandir. Elle est appelée à se développer. Si je n'ai pas changé en 2018, ça signifie tout simplement que je n'ai pas eu de croissance. Je dois changer en 2018. Si j'ai arrêté ma croissance spirituelle l'année dernière, il faut qu'en 2019, ça reprenne. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est une évidence à la lumière de la multitude d'impératifs, d'injonctions, de versets qu'on trouve dans toutes les épîtres de Paul. C'est comme un fil rouge qui traverse toutes les épîtres, un fil conducteur. Nous sommes, je peux le résumer ainsi par ce texte de Paul, nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. C'est notre appel. Dieu veut des fils et des filles. Il aime tous ses enfants, mais il veut que ses enfants grandissent. Et il veut des gens matures, des gens responsables, des gens qui savent aimer, des gens qui savent servir, des gens qui savent patienter, des gens qui savent voir le meilleur, là où, humainement parlant, avec nos yeux humains, on voit le pire. Vincent nous a fait chanter « Je marche par la foi, pas par la vue ». En 2019, il faudrait qu'on marche plus par la foi et beaucoup moins par la vue. Ça, c'est un degré de croissance. C'est une qualité de vie supérieure. Dieu veut pas que je reste. Oui, c'est magnifique, c'est beau un nouveau-né. Mais Dieu veut pas que je reste le nouveau-né spirituel que je suis. Il veut que je grandisse et d'étape en étape, de stade en stade, de progrès en progrès, que je devienne un homme, spirituellement parlant, que je devienne un homme, une femme mature, à qui il va pouvoir confier des choses et ensuite demander à ce que je lui rende des comptes parce que je vais pouvoir gérer les affaires de sa maison. Est-ce que tu es en train de devenir la personne que Dieu veut que tu sois? Ça fait partie du ministère de l'Esprit. Il est là, en moi, pour m'amener à être la personne que Dieu veut que je sois. Quand Jésus dit à ses disciples, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, la personne toute puissante de l'Esprit, la dunamis, la capacité, et vous serez mes témoins, il ne parle pas seulement du fait de parler avec notre bouche, de dire ce que Jésus a fait pour nous. Quand Jésus dit « Vous serez mes témoins », il ne s'agit pas de parler, de dire seulement avec sa bouche, mais de vivre. Vivre Christ. Vivre la vie du royaume. Vivre les principes du royaume. Malheureusement, on est souvent pris en défaut sur notre façon de vivre. Nous avons un discours, nous avons une façon de parler, et ensuite, les autres, ne vous faites pas d'illusions, hein, les autres vous voient vivre. Hein. Et nous pouvons être pris en défaut sur nos attitudes, sur nos réactions, sur nos comportements, Parce que nous ne réagissons pas comme Jésus aurait réagi. Parce que nous n'avons pas manifesté la compassion, le cœur, la patience que lui aurait manifesté. Et nous pouvons être pris, malheureusement, en défaut. Vous savez, peut-être, vos enfants sont peut-être pas chrétiens du tout. Vos collègues de travail ne sont pas chrétiens du tout. Vos voisins non plus. Mais me demandez pas comment. Inconsciemment, ils savent ce que doit être un chrétien. Et ça m'a toujours interpellé. Ils ne sont pas chrétiens. Mais inconsciemment, quelque chose en eux, ils savent ce que doit être un chrétien. Et si ça colle pas, tu peux raconter tout ce que tu veux, tu peux doubler le flot de paroles, et à partir du moment où ton attitude ne colle pas avec tes propos, plus tu vas parler, plus tu t'enfonces aux yeux de la personne. Quelqu'un a dit un jour que nos vies parlent plus que nos mots. Je crois que c'est vrai. Quelqu'un dira, oui, mais ça, c'est drôlement dur. Ah oui, je suis d'accord. C'est drôlement dur. Il faut bien comprendre que, on en reparlera beaucoup plus la semaine prochaine de cet aspect de la communion avec l'Esprit de Dieu, de ce verset 18 extraordinaire. Il faut bien comprendre dans un premier temps, frères et sœurs, que la vie chrétienne est un pur miracle. La vie chrétienne, dans tous ses aspects, est un pur miracle. Tout est une succession de miracles. Tout est une succession d'impossibilités rendues possibles par le Dieu qui veut et qui peut toutes choses et faire toutes choses belles, magnifiques en son temps, avec moi, par moi, pour moi, en moi. La vie chrétienne est une vie miraculeuse. Elle n'est pas accessible à l'être humain. Elle n'est pas accessible à ce que nous sommes, à qui nous sommes. Elle est trop haute, elle est trop grande, elle nous dépasse. Et on ne peut pas la reproduire, on ne peut pas l'imiter. Quand on essaye d'imiter une vie chrétienne, ça s'appelle de la religion. Mais Jésus n'est pas venu apporter une religion. Jésus a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie ». Il n'a pas apporté une religion. Des religions, il y en avait déjà plein dans le monde et il y en a encore plein depuis... Il n'y a que ça dans le monde des religions. Et aller de plus en plus vers la ressemblance de Christ, c'est un pur miracle qui n'est pas à ma portée. Ce n'est pas moi qui le produis. Je ne peux pas me changer moi-même. Dieu dit dans sa parole, un léopard ne peut pas enlever les taches de sa peau, un éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau, même les blancs quand ils essayent d'être noirs, de toute façon ça marche pas, ils chopent un cancer de la peau. Vous ne pouvez pas changer votre couleur de peau. Et bien de la même façon que vous pouvez pas devenir noir ou blanc ou ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Il y a quelqu'un qui est très convaincu qu'on peut pas se changer soi-même. Quelqu'un m'a fait... Merci pour l'encouragement. On parle des mêmes choses. On a besoin de réaliser ces choses. Il y a des gens qui disent parfois, pour justifier leur comportement, leurs attitudes, leurs propos, leurs égarements, il y a des gens qui disent, mais si tu savais ce qu'on a traversé. Je dis oui, je le sais. C'est justement pour ça que je vous dis que vous pouvez pas faire l'impasse sur le Saint-Esprit. Mais si tu savais comme c'est dur ce que je vis. Oui, mais c'est toi qui comprends pas que j'en suis conscient, mais que tu peux pas, parce que c'est dur, tu peux pas faire l'impasse sur le Saint-Esprit. Oui, mais si tu savais ce qu'on a dû endurer. Oui, mais si tu savais ce qu'il m'a dit. Oui, mais si tu savais ce qu'elle m'a fait. Oui, c'est justement pour ça que je te dis, tu ne peux pas faire l'impasse sur la plénitude du Saint-Esprit. Jésus est mort, rempli du Saint-Esprit. Il est mort libre de tous, il est parti le cœur libre, le cœur léger, le cœur joyeux, en disant « Seigneur, pardonne-leur !» Jésus est parti rempli du Saint-Esprit, libre et innocent du sang de tous, il était pur du sang de tous. Pardonne-leur. Même dans sa mort, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus dit dans Jean 15, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment comprendre que c'est un miracle. On le sait, mais on essaye, c'est plus fort que nous, on essaye toujours de produire quelque chose. Quand Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez, ça se situe dans quel texte? Ça se situe dans Jean 15. Le contexte de Jean 15, c'est le vigneron, le cep, le sarment et la sève. Jésus dit, mon père, c'est le vigneron. Moi, je suis le cep. J'ai été, c'est l'image de la croix de ce cep, qui a été planté sur le champ de ce monde. Jésus est le cep. Nous sommes les sarments qui avons été greffés au cep. Vous regardez une vigne, le sarment, il ne peut rien produire de lui-même. Le sarment, il a une chose à faire, c'est de rester greffé sur le cep, et tant qu'il est greffé dans une bonne communion, c'est ce que ça signifie pour nous, une bonne communion, une bonne intimité avec lui, tant que le sarment est greffé sur le cep, la sève, le texte ne le dit pas explicitement, mais je ne vais pas faire une faute doctrinale ou d'herméneutique ou d'exégèse en disant que le Saint-Esprit, c'est la sève qui vient de Jésus, Jésus a envoyé son esprit, la sève monte du cep et elle coule dans le sarment, et puis un matin, vous vous réveillez, vous dites, ah, ben dis donc, il y a quand même des sacrées belles poires sur cet arbre. Le sarment n'a rien produit, c'est miraculeux, c'est la vie. Si vous avez vraiment ça à cœur et que vous dites, Seigneur, change-moi, et que vous êtes vraiment dans une communion avec Dieu, il va vous changer. Et un jour, vous n'aurez pas besoin de rendre témoignage de vous-même. Quelqu'un dira, oh, t'as changé toi. Qu'est-ce que t'es devenu patient? Quand je pense qu'avant tu démarrais au quart de tour, t'étais comme Moïse, t'étais à régler les problèmes de tout le monde avec tes mains, avec tes poings, pour ne rien produire, et Moïse est devenu l'homme le plus doux et le plus patient de la terre. C'est dans le contexte de Jean 15, de la vigne, que Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, vous n'imiterez pas ma vie, vous ne deviendrez pas plus amour, vous ne deviendrez pas plus patient, vous ne serez pas plus joyeux, vous ne serez pas plus fidèle, vous ne serez pas plus zélé, vous ne serez pas plus enthousiaste, vous ne serez pas plus brûlant. Tout ça, c'est l'esprit qui va le produire. Tu ne seras pas plus maître de toi-même parce que tu fais un travail sur toi-même. La psychologie et la religion se chargent de faire un travail sur moi-même. Et Dieu, il fait pas un travail sur moi, Dieu, il me change. Amen. Et ça, c'est le miracle que l'Esprit de Dieu, c'est un aspect du ministère de l'Esprit qui coule du cep, qui passe dans le sarment que je suis, et des fruits extraordinaires et abondants vont en surgir et vont jaillir. On peut ouvrir ensemble, s'il vous plaît, dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, on va trouver une image exceptionnelle. J'aime beaucoup cette image, où le Saint-Esprit est comparé aussi au doigt de Dieu. Il est appelé le doigt de Dieu. Exode, chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, qui furent écrites du doigt de Dieu. Amen. Contrairement à ce que Hollywood essaie de nous faire croire dans ses mauvaises adaptations cinématographiques, non, ce n'est pas Moïse qui a écrit les 10 commandements avec un marteau et un burin sur des tables de pierre à l'écoute de la voix de Dieu. C'est Dieu lui-même, directement, c'est le Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. Le Saint-Esprit ici est comparé au doigt de Dieu. C'est une image, une métaphore. Le doigt de Dieu a écrit directement les 10 commandements sur des tables de pierre. Et c'est certainement avec ce verset présent à l'esprit que l'apôtre Paul dit maintenant, vous êtes des lettres de Christ. Et vous n'êtes pas écrit avec de l'encre, vous n'êtes pas écrit sur des tables de pierre, mais vous êtes écrit par le Saint-Esprit, le doigt de Dieu, n'écrit plus sur des tables de pierre. Maintenant, l'Esprit de Dieu écrit sur des cœurs, sur des tables de chair. Il écrit dans vos vies ses principes, il écrit son royaume, il grave sa marque, il met son empreinte, il grave son caractère. Lorsque dans l'Ancien Testament, là, au Sinaï, Dieu donne sa loi à Moïse. Cette loi, elle a une double vocation. Elle doit, c'est normal, elle doit me révéler quelle est la norme. Nous savons que la norme de Dieu est parfaite, elle est absolue. La loi est immuable, la loi, Jésus le dit, elle ne passera jamais. Je suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. La loi, c'est l'expression de la sainteté, de la pureté, de la perfection absolue de Dieu en tout et partout. Elle me révèle qui est Dieu, elle me révèle ses normes. La loi est une référence absolue, c'est le cadre de vie, le cadre législatif protecteur, c'est une loi de vie. Elle garantit le bonheur de l'homme parce que les 4 premiers commandements me parlent de ma relation avec Dieu et les 6 derniers me parlent de ma relation avec ceux qui m'entourent. La loi de Dieu est parfaite, elle garantit le bonheur de l'être humain. Le problème, c'est que si la loi me révèle la perfection de Dieu et le bonheur qu'il veut m'accorder, elle me révèle aussi mon incapacité à accomplir cette loi. Et la loi, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je peux passer toute ma vie à essayer de l'accomplir. La loi ne peut pas me changer, elle ne peut pas me transformer. Cette référence absolue, cette perfection. Mais je sais que cette loi, elle peut pas me changer. Et la loi s'est très vite révélée comme étant le moyen de nous faire connaître qui est Dieu, mais aussi de nous faire connaître qui nous sommes. Et par la loi, c'est ce que Paul dit, c'est par la loi que j'ai eu la connaissance du péché. Je n'ai connu le péché que par la loi. C'est un grand principe qui régit toutes nos sociétés. Il n'y a pas d'infraction sans loi. Pour dire qu'une infraction est une infraction, il faut qu'il y ait une loi qui dise que... S'il n'y a pas une loi qui vous dit que de passer au feu rouge est une infraction, ce ne serait pas une infraction. C'est parce qu'il y a une loi qui le dit. Et là, c'est la même chose. La loi de Dieu me dit ce qu'est le péché. Elle met en évidence, elle me donne la connaissance du péché et de mon incapacité, de mon impossibilité. Et Paul dira aussi, j'ai la bonne volonté. Je sais qu'ici, il y a plein de gens de bonne volonté. J'ai la volonté, mais j'ai pas la capacité. Ce qui lui a fait dire un jour, misérable, malheureux que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? Je suis voué, je suis vendu au péché. Alors il fallait absolument que, c'est notre seul espoir, que Dieu lui-même vienne régler la question du péché, qu'il vienne lui-même ensuite accomplir cette loi dans mon cœur, cette loi qui me garantit le bonheur et l'épanouissement. Et on retrouve ensuite ce que Paul dit ici aux Corinthiens, c'est aussi pour faire écho aux promesses de l'Ancien Testament. Dieu avait dit à Jérémie, il avait dit à Ézéchiel, « Je mettrai ma loi au-dedans de vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vais faire une alliance avec vous. Je vais mettre ma loi au-dedans de vous. Je vais l'écrire dans votre cœur. » Pas sur des tables de pierre, pas gravé dans le marbre. Dieu, le Saint-Esprit, après avoir écrit une fois, il y a des centaines, des milliers d'années, après avoir écrit une fois la loi de Dieu dans un bloc de marbre, il dit maintenant, je veux absolument l'écrire dans ton cœur. Et ça va te changer, ça va te transformer. Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre corps, j'enlèverai ce cœur pierreux, parce qu'avec mon cœur pierreux, on peut rien faire. Je peux rien graver, je peux rien écrire. Il faut que le cœur soit changé. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, le doigt de Dieu vient lui-même habiter en moi, j'enlèverai ce cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Non pas, là, c'est pas au sens de la nature charnelle, chair c'est au sens de ce qui est souple, de ce qui est tendre, de ce qui est malléable. Il faut que le cœur soit changé, afin qu'on se retrouve pas avec une loi devant nous qui nous condamne sans arrêt, qui est inapplicable, que j'arrive jamais à appliquer, que je suis malheureux parce que je suis pas un assez bon chrétien, parce que je suis pas encore comme ci, parce que je suis pas encore comme ça, parce que j'ai encore parlé comme ci cette semaine, parce que j'ai encore pensé comme ça, parce que j'ai encore déraillé là, parce que j'ai encore dérapé ici. Et à chaque fois, ma bonne volonté, ma bonne conscience m'accuse et la loi de Dieu me dit « Tu peux pas, t'y arriveras pas. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que le doigt de Dieu va écrire quand tu es en communion avec lui. On verra tout cet aspect de communion et de contemplation la semaine prochaine. Quand tu es en communion avec lui, il va inscrire lui-même ses lois de vie dans ton cœur. Et il va te changer, te transformer. C'est pas toi qui va te changer, c'est lui qui va te changer. Alors Jésus est venu, le Saint-Esprit est venu, chacun avait un ministère complémentaire mais bien spécifique. Jésus vient régler une fois pour toutes la question du péché à la croix. Il vient accomplir la loi de Dieu, il vient satisfaire la loi de Dieu. Il vient exprimer tout ce que Dieu voulait quand il a dit « Faisons l'homme à notre image » dans la Genèse. Vous voulez savoir à quoi Dieu pensait quand il a dit « Faisons l'homme à notre image » ben vous regardez Jésus et vous voyez à quoi Dieu pensait quand il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Il vient exprimer tout ce que Dieu voulait. Il est le modèle suprême pour tous les croyants, mais son œuvre ne s'arrête pas là. Dieu ne nous laisse pas avec une table gravée, avec une loi inapplicable et notre incapacité. Il ne nous laisse pas seuls avec un modèle inaccessible que je ne peux pas reproduire. Il envoie le Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit parce que l'un des aspects du ministère de l'Esprit, c'est de nous rendre capables. Le Saint-Esprit, c'est la réponse de Dieu à mon incapacité de me changer, de me transformer. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement la réponse de Dieu devant mon incapacité de guérir les malades. C'est génial, ça en fait partie. Le Saint-Esprit, c'est la réponse de Dieu à mon incapacité parce que le doigt de Dieu va me transformer. C'est la réponse, il est la réponse. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et quelques centaines d'années plus tard, Paul écrit aux Corinthiens, « Vous êtes manifestement, vous êtes maintenant, évidemment, vous êtes une lettre de Christ écrite par l'Esprit de Dieu. » Ah, je comprends pourquoi Jésus a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Merci Seigneur, tu n'écris plus sur des tables de pierre, tu écris maintenant sur des cœurs de chair, des cœurs malléable. Et moi, ce que je peux vous souhaiter de mieux encore pour cette année, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et d'avoir une communion toujours plus étroite, toujours plus intense, toujours plus précise, toujours plus passionnée, passionnante avec lui, de lui laisser toujours de plus en plus d'accès dans votre vie, dans votre cœur, afin que vous soyez transformés. La vie chrétienne, c'est pas, pardon, je termine avec ça, j'insiste. La vie chrétienne, c'est un miracle. C'est pas mon ancienne vie qui s'efforce de produire quelque chose. La vie chrétienne, c'est pas des améliorations. C'est pas du mieux. La vie chrétienne, c'est une vie nouvelle. Et dans une vie nouvelle, tout est nouveau. J'ai une vie nouvelle, j'ai un cœur nouveau, j'ai eu une nouvelle naissance, j'ai eu des nouvelles langues, j'ai eu de nouvelles expériences, j'ai un esprit nouveau, j'ai une adoration nouvelle, j'ai une aspiration, des choix nouveaux, des comportements nouveaux, j'ai des priorités nouvelles, j'ai des réactions nouvelles, j'ai des sentiments nouveaux, j'ai une vie nouvelle, j'ai un caractère nouveau. Le doigt de Dieu vient et il veut me remplir. Si je suis rempli de l'Esprit, dans ma communion avec lui, il va reproduire en moi son caractère. Il va graver tous ses principes de vie dans mon cœur. Et même si tu as oublié que la vigne, le cep, le sarment, c'est dans Jean 15, c'est pas bien grave. Du moment que dans ton cœur c'est gravé, que tu sais, « Seigneur, je sais plus trop où c'est écrit, mais dans mon cœur c'est gravé que sans toi je ne peux rien faire. Seigneur, dans mon cœur, c'est gravé que tu vas me donner un autre caractère, que tu vas me faire grandir, que tu vas me faire aller de plus en plus de progrès en progrès, que tu vas me faire aller de plus en plus à ta ressemblance. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, toi, le doigt de Dieu, écris toi-même dans mon cœur. C'est toi qui vas écrire dans mon cœur les principes de vie de ton royaume et faire que ma vie chrétienne soit une vie nouvelle, une vie puissante, une vie intéressante, une vie qui marque les autres, une vie qui interpelle, une vie qui attire, une vie remplie, une vie transformée. Soyez bénis.